Non, cher, hafizakumullah. Donc, première question. Question d'une sœur qui dit: est-ce qu'aujourd'hui un vrai califat peut être mis en place? Ou à notre époque c'est impossible et pourquoi? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, de nos jours, ce n'est pas une chose facile que tous les pays musulmans yani, prennent un seul calife. C'est vraiment difficile. Donc, je ris. De nos jours, ce n'est pas une chose facile que tous les pays yani, musulmans mettent un seul calife qui les dirige. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que ça viendra. Et s'il a promis une chose, ça veut dire qu'elle viendra, subhanahu wa ta'ala. Reste que maintenant, il y a un ijma, un consensus, que chaque pays musulman, son gouverneur, c'est lui son calife. Chaque pays musulman, ce gouverneur de ce pays, le calife par rapport à, yani, à son peuple. À son peuple, bi'idhnillahi ta'ala. Naam.
Non, cher, lorsque vous parlez, ça coupe un peu. Question suivante, question d'une sœur qui dit: Ahsanullahu alaykum. Nous qui sommes en France, à qui devons-nous prêter allégeance? Est-ce au gouverneur de notre pays d'origine? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a répondu à cette question. Il a dit: la personne qui vit dans un pays, écrivez numéro 1 à chaque fois que je prends le micro. Il a dit: la personne qui vit dans un pays où il n'y a pas de gouverneur musulman, hein, doit mettre dans son intention et son cœur que si j'étais dans un pays musulman, j'aurais donné allégeance à qui? Au gouverneur musulman. Ou alors, si ce pays-là où je suis devient un pays musulman, alors je donne allégeance au gouverneur. Il a dit ça pour qu'elle ne tombe pas dans le hadith: quiconque meurt sans ayant donné allégeance à un gouverneur va mourir une mort de jahiliya. Il a dit ça, quand tu fais ça dans ton cœur, alhamdoulilah, ça va te faire sortir de ce hadith. Et c'est un peu, car ça ressemble un peu au hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que quiconque meurt et il ne s'est pas dit, ça veut dire il ne s'est pas parlé avec lui-même dans son esprit ou dans son cœur, que c'est-à-dire ni il n'est parti faire assister à une bataille, ni il s'est parlé à lui-même que s'il y avait une bataille, par exemple, j'aurais participé. Il a dit, s'il ne fait pas l'une de ces deux choses, s'il meurt, il meurt avec quoi? Il meurt dans une branche d'hypocrisie. Il meurt dans une branche d'hypocrisie. Si tu t'es jamais dit, s'il y a une bataille, je participerai, une bataille la vraie, pas la bataille des Khawarij, la vraie de la Sunna al-Jama'a, les grands savants kibar qui te donnent la fatwa. Ce n'est pas Ben Laden ou la Zawahiri qui te donne la fatwa. Non. Ou la Baghdadi. Et la deuxième chose, ou bien tu te dis dans ton cœur, non, si yani, il y aura lieu, donc j'assisterai. Donc si la personne ni n'a assisté, ni s'est parlé à elle-même dans le cœur, il a dit si elle meurt dans une branche d'hypocrisie, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc vous voyez que le fait de se parler dans le cœur a bien yani, une répercussion. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que la personne doit dire dans son cœur que s'il y avait un gouverneur musulman, je lui donnerais bi'idhnillahi ta'ala allégeance. Tfadl.
Question suivante qui dit: a-t-on désobéi à ceux qui détiennent le commandement si les responsables d'une mosquée interdisent le port des chaussettes et que malgré tout on les garde, sachant que la traduction de la parole d'Allah dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Tfadashir.
Est-ce que c'est possible de répéter la question, Barakallahu fik?
Je la répète, et Fawzi, si tu peux la coller, une fois de l'ec. A-t-on désobéi à ceux qui détiennent le commandement si les responsables d'une mosquée interdisent le port des chaussettes et que malgré tout, on les garde, sachant que la traduction de la parole d'Allah dit: Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement.
Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah ta'ala a'lam. Je chercherai, inshallah ta'ala, s'il y a une réponse à cette question. Mais je peux vous dire une chose. Lorsque Allah ta'ala obéissait à Allah, aux messagers, et à ceux et obéissait aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, vous avez que, par rapport à ceux qui détiennent le commandement, il n'a pas dit obéissez. Il a dit seulement et à ceux. Ça, il est sous-entendu. Pourquoi il ne l'a pas cité clairement? Pour te dire que l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement doit subordonner à Allah et à son messager. Donc maintenant, ceux qui disent il ne faut pas faire telle et telle chose dans la mosquée, si ce sont eux les responsables, il faudrait yani, les écouter à condition qu'ils ne disent pas quelque chose contraire, yani, au contraire au Coran et à la Sunna. Vous avez, hein? S'il y a maintenant des ahbash qui vont me raconter n'importe quoi, qui vont sortir des lois contre le Coran, et ensuite il me dit il faut obéir. Vous avez compris? Yani ce qu'ils mettent comme loi ou je ne sais quoi, que ce soit conforme à la sharia de l'État. Et, inshallah, il y a une réponse, je vous la donnerai ultérieurement, inshallah ta'ala. Tfadlal.
Je le répète, cher. Cher, pouvez-vous nous éclaircir au sujet de la Haddadiyya? Quels sont leurs usul? Tfadal, cher.
Grosso modo, les Haddadistes ou les Haddadi suivent quelqu'un qui est leur gourou, qui s'appelle Mohammed ibn Haddad, qui est un Égyptien. Et leur usul, maintenant, si vous lisez toujours un sunna ou jama'a, disent celui-là c'est un haddadi, celui-là c'est un haddadi. Maintenant, le mouchkil, c'est beaucoup qui a été salafi, maintenant il a été prouvé que ce sont des haddadi. Haddadi, qu'est-ce qu'il dit entre eux? Il dit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance. Non, si quelqu'un fait une faute, on applique sur lui. Ou bien il devient murtad, ou bien apostat, ou bien il devient mubtadi. C'est-à-dire que la salafie est comme ça. C'est pour ça que c'est-à-dire, d'un exemple, il ne faut pas lire les livres de Nawawi, de Chatibi, ni les livres d'Ibn al-Arabi, les livres d'Ibn Hajj al-Asqalani, Fath al-Bari, Fath al-Bari. Il te dit, il faut le brûler. Non. Une seconde. Je disais, maintenant, ils disent, il n'y a pas d'excuse. Celui qui se trompe, il sort. Ah, il n'est plus salafi, il est ceci, il est moubtadir, et comme ça. C'est ça leur grande, il y a le grand au sol. C'est pour cela que maintenant, ils trouvent des fautes, Zahma, Al-Sheikh Al-Albani, Al-Sheikh Rabia, Al-Sheikh Ubay Jabiri, tout cela, ils leur trouvent des fautes. Naam. Et pour eux, ce ne sont pas des savants. Et pour eux, il ne faut pas suivre ces grands savants, pas les suivre. Ils ont des fautes dans ceux-ci, dans ceux-là. Nous préserve, Cheikh Bezmoul, c'est pire, naam. Donc, que Allah Ta'ala nous préserve des haddadis, c'en est plein partout. Ici en Algérie, maintenant, c'est plein. Je pense qu'il nous préserve de. Donc, il l'ignorance. Il n'a pas d'excuse.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cher, donc je la répète. C'est la question d'une sœur qui dit « Cher, qu'Allah vous préserve, est-il correct de s'éloigner des musulmanes qui ne se prétendent pas être s'éclaircir barakallahu fikoum ?»
D'accord. Pour les liens, etc., il faut éviter pendant le cours, inshallah, il faut faire ça dans les pauses, ou bien à la fin, ou bien dans les pauses. Parce que quand on met un lien en plein cours, ça veut dire que les gens vont cliquer sur le lien et que toi, tu es en train de parler dans le vide. Donc, est-il correct de s'éloigner des musulmans qui ne se prétendent pas être salafia? Pouvez-vous m'éclaircir? Je dis, là, il faut bien voir deux choses importantes. Quelles sont les deux choses importantes? C'est la question d'une sœur. Premièrement, c'est qui celle dont je veux m'éloigner? Et deuxièmement, c'est qui, moi, qui veux m'éloigner? Donc, celle de laquelle je veux m'éloigner, qui n'est pas salafia, se divise en deux. Ou bien c'est une sœur des gens de la masse, qui ne connaît rien. Ou bien c'est une da'iya dans une secte égarée. Je répète, celle de laquelle je veux m'éloigner, qui n'est pas salafia. Ou bien, elle fait partie des gens de la masse, comme ma mère et ta mère et ma tante et ta tante et ma grand-mère et ma voisine qui ne connaissent rien sauf peut-être la prière. Ou bien, non, c'est une da'iya, une prêcheuse chez les frères musulmans, les frères et les sœurs musulmanes afouan, chez les tablir, chez ceci, chez les takfir, chez. Là, c'est très grave. Là, c'est très grave. Naam, je dois l'éviter à 100%. Tout juste, si je lui réponds à son salam, si j'ai peur d'elle qu'elle me fasse des problèmes, ou bien je la rencontre comme ça dans les escaliers. Sinon, je l'évite au maximum, car elle peut me donner beaucoup de choubouettes. Mais si par contre, elle fait partie des gens de la masse, elle ne connaît rien, là, on va revenir au deuxième point, qui est quoi? Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Si moi, qui suis une salafia, j'ai de la science, mashallah, donc je pourrais faire profiter cette sœur qui fait partie des gens de la masse. Alors, je reste avec elle, je la côtoie. Le temps que yani, elle apprenne, pour qu'elle voit clair, pour qu'elle fasse la différence entre les sectes, etc. Et j'ai beaucoup donc de ajr en lui apprenant ce que j'apprends. Mais si par exemple moi, je n'ai pas de science aussi du tout, je suis vide, naam, et maintenant en fréquentant celle-là, je vais me perdre davantage. Il vaut mieux donc dans ce cas me limiter aussi à seulement salam salam et des choses yani dans le besoin, c'est tout. Mais ne pas faire d'elle d'une amie parce qu'elle risque aussi yani de m'éloigner sans le vouloir. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal.
Question suivante. Quelle est la différence entre les khawarij de l'époque et les takfiri à notre époque? Tfaddal cher.
Les khawarij d'autrefois, naam, on les appelait khawarij parce qu'ils avaient des choses dans la aqida et des choses dans le minhaj. Dans la aqida, celui qui fait un grand péché est sorti de l'islam. Alors que ceux d'aujourd'hui, peut-être ne le disent pas, les takfiris d'aujourd'hui. Et aussi, ceux d'autrefois, dans leur aqida, ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne voit pas yawm al-qiyamah. Alors que ceux d'aujourd'hui, les takfiris, je suis sûr qu'ils disent, on voit Allah ta'ala yawm al-qiyamah. Les khawarij d'autrefois, dans leur aqida, c'est qu'il n'y a pas d'intercession, yawm al-qiyamah, il n'y a pas d'intercession pour ceux qui font les grands péchés. Mais ceux d'aujourd'hui, je pense, Allah alam, qu'ils disent que le prophète sallam fera l'intercession par rapport à ceux qui font les grands péchés. Mais ce que je veux dire maintenant, pour résumer et terminer, tout takfiri est un khariji. Et on peut être khawari sans être takfiri. Tout takfiri, toute personne qui dit les gouverneurs sont des kofas, bien sûr celui-là va dire, donc on doit lui faire la guerre. Mais par contre, tu peux trouver des gens qui font partie des khawarij de notre époque. C'est-à-dire, il te dit, viens, on va faire des manifestations, viens, on va essayer d'enlever le gouverneur, etc. Pourtant, sans être takfiri. Si tu lui dis pourquoi il est kafir, il te dit non, il est musulman, mais il est comme ça. Il a appris le kharijisme comme ça, à cause d'avoir côtoyé de mauvaises gens qui n'ont pas de science, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. C'est moi qui ai arrêté le timer. Je me suis dit, peut-être c'est lui qui fait les problèmes de coupure. Wallahu a'lam.
D'accord, cher. Donc vous me direz, Inch'Allah, lorsqu'on arrête les questions, parce que je n'ai pas vérifié quelle heure il était lorsque vous avez arrêté le timer. Question suivante. Qui dit, doit-on écouter les quatre imams, même si l'un parmi eux, est dans l'erreur sur un point, Qui doit-on écouter plus précisément? Fadashir.
La question n'est pas claire pour moi, je n'ai pas bien comprise. Ensuite, je vous dis, par rapport au timer, il est chez moi en Algérie. 22h28, 22h28 minutes. Et on va arrêter à 23h, Inch'Allah. Donc il reste à peu près une demi-heure, bi'idhnillahi ta'ala. Il est 22h28 et on va arriver à arrêter à 23h, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'on doit écouter les quatre imams, même si un parmi eux est dans l'erreur sur un point? Qui doit-on écouter plus précisément? Je réponds, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a ordonné d'écouter que quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abdullah et ibn Amina sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le prof, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a ordonné que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sahbihi ajma'in. Donc c'est celui-là qu'on doit écouter. Quant aux autres imams, on n'est pas obligé de suivre l'un d'eux. Mais dans le besoin, on peut imiter l'un des quatre ou l'un des 100 autres qu'il y en a. Ces quatre, c'est les plus connus, c'est tout. C'est-à-dire, dans le besoin, on peut suivre l'un de ces quatre ou d'autres, tant qu'on n'a pas, yani on ne sait pas où se trouve, yani la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme disent les savants, ils disent, quand tu suis un imam, c'est un peu comme lorsque tu es dans le besoin de manger de ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, la bête morte. Est-ce que la bête morte, c'est permis de la manger? C'est permis de la manger s'il n'y a pas de halal, il n'y a pas de bête qui a été égorgée et que je suis vraiment dans quoi? Dans yani la daroura, je risque de mourir si je n'en mange pas. La même chose ici. Tu as bien cherché, tu as essayé de contacter les savants, tu as fait tout ton possible pour connaître la sunna dans telle chose, telle affaire, tu n'as pas su, tu n'as pas pu. Alors maintenant, comment tu fais? Ou bien tu suis ce qu'a dit l'un des quatre imams, ou bien tu suis ce que ta tête te dit. Quel est le mieux? Suivre ce qu'a dit l'imam Malik, rahimahullah, dans cette chose, ou bien suivre ce que ma tête me dit. Sûrement, ce qu'a dit l'imam Malik, rahimahullah, ou bien Shafi, ou bien Ahmed, ou bien Abu Hanifa. Donc là, je suis parti vers les quatre imams, quand vraiment, il ne me restait plus que cette solution. Quant aux autres, qu'est-ce qu'ils font? Non. Les autres, à la base, il te dit, il faut suivre l'un des quatre imams. Il faut être malikite, ou bien Shafi'ite, ou bien Hanbalite, ou bien Hanafite, il faut rentrer dans un des quatre rites, sinon ton islam est faux, comme ça ils disent. Alors que ça c'est faux, c'est pas vrai. Quand je vais mourir demain et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, je suis sûr, bi'idhnillahi ta'ala, qu'il ne va pas me dire quel est l'imam que tu suivais. Est-ce que c'était Abu Hanifa, ou bien Malik, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed ibn Hanbal. Mais par contre, il va me dire. Est-ce que tu suivais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadl.
Question suivante. Question d'une sœur qui dit: Je suis arrivé en retard et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-il obligé de prêter allégeance à un calife? Tfadl, cher.
La question n'est pas très claire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que était obligé de prêter allégeance à un calife. La question n'est pas claire. Pourquoi? Elle n'a pas dit à un calife, c'est-à-dire le calife de mon pays, ou bien n'importe quel calife si je suis dans un pays de kuffar. Elle n'a pas, je sais pas ce qu'elle veut dire. Donc moi, je vais répondre pour les deux cas. Si jamais quelqu'un vit dans un pays musulman et il n'a pas prêté allégeance à ce gouverneur qui est musulman, s'il meurt, a'oudou billah, il va mourir une mort anti-islamique, de la djihadia. C'est-à-dire comme les kofars qui mouraient autrefois sans allégeance. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu kafir, mais il est mort comme eux. Il leur a ressemblé dans le fait qu'il a vécu sans prêter allégeance. A'oudou billah. Par contre, s'il vit dans un pays où le gouverneur n'est pas musulman, alors il doit prêter allégeance dans son cœur et dire que si j'étais dans un pays musulman, j'aurais, inshallah ta'ala, donné allégeance à mon gouverneur. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et prêter allégeance, bien sûr, ce n'est pas yani, aller, par exemple, aux urnes et dire, voilà, je suis venu voter. Mais en islam, il y a ce qu'on appelle ahl al-hilu al-aqd. Il y a des gens qui sont désignés par les musulmans, et eux-mêmes, ces gens, naam, par exemple, dans chaque ville, il y a quelqu'un peut-être, ce sont ces gens qui vont prêter allégeance à nos places, à la place yani, du peuple, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur, qui dit, cher, comment va-t-on savoir que ce sera bien le Mahdi, le calife, lorsqu'il sortira? Tfadlal, cher.
Il aura, bien sûr, le Mahdi, quand il va venir, inshallah ta'ala, il aura des spécificités. Par exemple, que son nom, Naam, sera comme le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom de son père, comme le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abdillah, donc. Naam. Et que, yani, il viendra au moment de, quand il y aura Isa, alayhi salam. Quand il y aura Isa, alayhi salam. Et que, on avait dit la fois passée, qu'il resterait 7 années. Et d'autres ont dit 40. Naam. Mais qu'on avait vu qu'il resterait 7 années. Bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, quand il viendra, naam, il viendra pour yani, instaurer, inshallah ta'ala, yani, l'adl et la justice. Et yani, ce sera des moments vraiment où ce sera comme le paradis sur terre. Naam. Donc nous, notre Mahdi, inshallah ta'ala, ce n'est pas le Mahdi des Rawafid, les Mahdi des chiites qu'ils attendent et qui pour eux, quand il avait 4 ou 5 ans, il est rentré dans un garage et on ne l'a plus revu. Et pour eux, il est toujours vivant, craché dans un sirdeb, dans un garage, dans une ville qui s'appelle Samoura, en Irak. Nous, ce Mahdi dont eux ils parlent, nous, on ne le reconnaît pas. Mieux encore, on dit ça, c'est de l'enfantillage. Ça, c'est une blague. Ça, c'est un conte. Ça, c'est un conte de fées. Il sera reconnu en Mecca à côté de la Kaaba. Je ne connais pas ça. Allahu a'lam. Non, je ne me rappelle pas de ça. Donc, le Mahdi des Rawaf et des chiites, celui-là, nous, pour nous, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Naam. Et Masakin, tellement ils sont bêtes, tellement ils sont ignares dans la religion, au point où beaucoup de Rawaf et de chiites, jusqu'à de nos jours, là où je suis en train de vous parler, de nos jours, il y en a beaucoup d'eux qui quoi? Qui yani, naam, montent sur leur terrasse et prennent du foin. Du foin, naam. Tu lui dis pourquoi, qu'est-ce que tu fais là la nuit? Il te dit car le Mahdi, naam, il va venir yani, sur un âne et là on a besoin de foin, donc moi je lui montre le foin. Peut-être qu'il va, inchallah ta'ala, descendre sur mon, comment ça s'appelle, sath, je l'ai dit tout à l'heure, sur ma terrasse, voilà. Peut-être qu'il va venir sur ma terrasse. Donc chacun prend le foin, il monte sur la terrasse et il attend. Masakin, ils n'ont vraiment rien dans la tête. Masakin, des juhel. Allah Ta'ala nous préserve d'eux. Naam, tfadlal.
Naam, cher, donc il n'y a plus de questions sur le cours. Donc les questions d'ordre général, inshallah. Question d'une sœur. Qui dit, tout d'abord, nous nous présentons, nous sommes deux sœurs de sang, originaires des îles Comores. Plus précisément, de l'île Mayotte. Nous vivons actuellement en France métropolitaine avec notre grand frère, la plus âgée de nous deux, à 21 ans, et la plus jeune, 17 ans. Nos parents vivent à l'île Mayotte. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Nous sommes ainsi devenus une famille de 14 enfants, car notre mère avait deux garçons d'un premier mariage et notre père avait déjà quatre filles et quatre garçons avant que notre mère ne devienne sa deuxième épouse. Actuellement, nos parents sont divorcés l'un de l'autre. Notre mère s'est remariée à un homme qui a déjà d'autres épouses et notre père est resté marié à sa première épouse. Nous sommes les deux plus jeunes de cette famille de 14 enfants. Tous ont délaissé la pratique de la religion, mais nous savons qu'un des frères ne fait que la prière. Un autre est parti étudier une année à l'université Al-Azhar en Égypte, suite à quoi il est considéré comme qadi dans son village à Mayotte. Il est à noter que Mayotte, terre musulmane, est un département français depuis 1432 de l'Hégire, avril 2011. Ainsi, ce sont les lois de la République française qui prévalent sur l'ensemble du territoire français. La justice musulmane n'existe plus à Mayotte, si elle a déjà existé, car nous, personnellement, nous ne nous en souvenons pas. Mais paraît-il que certains de nos autres frères jeûnent le mois de Ramadan. Cela dit, nous savons qu'en plus du délaissement de la pratique de notre noble religion, tous, excepté celui qui a fait une année à l'université Al-Azhar en Égypte, se sont tournés vers la passion de la dunya. Certains vers la fornication, la musique, le football, l'alcool, d'autres vers la drogue, et nous en passons. Et la recherche de la science islamique ne fait pas du tout partie des occupations de nos frères. Et une de nos sœurs prie concernant la pratique religieuse de nos parents. Nous savons que les deux prient, jeûnent et ont fait le hajj plus d'une fois à la maison. Quant à nous, nous cherchons à connaître la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis quelque temps maintenant. Walillahi alhamd. Donc nous avons pris une direction autre que celle du reste de notre famille. Nous ne voulons pas rompre les liens de parenté. Au contraire, nous sommes désireuses à ce que notre famille suive la sunna. Nous aimerions faire la hijra afin d'avoir la possibilité d'apprendre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bi'innillah, pour la mettre en pratique, les y appeler et à patienter face à cette da'wah, inshallah. Mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes deux jeunes femmes non mariées et nous ne voyons aucun de nos mahrams venir nous accompagner. Et vu leur éloignement de la religion, nous affirmons cela car beaucoup de problèmes se sont posés lorsque nous nous sommes mises à pratiquer la religion, délaissant l'université et le lycée laïque, démocratique et républicain et mixte. Cela nous a valu de la part de notre famille qui aspirait à autre chose pour leurs deux petites dernières. Parmi ces représailles, les membres de notre famille qui avaient constaté notre changement ont alerté les responsables de scolarité et les autorités. Tous jugeaient que nous étions en danger, endoctrinés et sous l'emprise religieuse, car notre famille a fait savoir que ce n'est pas tant la pratique religieuse qui les dérange, mais c'est plutôt notre changement radical. Quand bien même nous avons essayé de leur expliquer, ils n'ont pas tenu compte de nos explications, car notre parole était faible du fait que nous sommes les plus jeunes de la famille. Et à leurs yeux, nous étions trop endoctrinés pour pouvoir tenir un discours cohérent qui mérite d'être écouté. Le résultat de tout cela, c'est que nous avons reçu une ordonnance du juge des enfants du tribunal de la ville dans laquelle nous habitons ici en France. Cette ordonnance dit que ce juge ordonne une mesure judiciaire d'investigation éducative concernant la plus jeune de nous deux, qui est considérée aux yeux de la loi française comme étant irresponsable, mineure en danger en France. On nous a informé du déroulement de cette mesure. Nous sommes tenus de consulter une psychologue et une éducatrice pendant une durée de 6 mois minimum. Et le premier rendez-vous a été programmé pour le 23 Dhul-Qaada, le 18 septembre 2014. Au cours de ces multiples rendez-vous, nous devrons nous dévoiler en racontant toute notre vie, celle de nos parents, celle des membres de notre famille, jusqu'à ce qui advient de notre vie aujourd'hui à ces personnes mécréantes. Ces personnes pensent que de cette manière, il y aura possibilité de trouver une solution au danger dont nous serions menacés, selon leur dire. Or, ce dont nous souffrons réellement, c'est un manque de science et de ne pas pouvoir pratiquer aisément notre religion, noyant l'idée de devoir sortir de chez nous régulièrement pendant les 6 prochains mois pour aller donner de notre temps à des mécréants qui ne veulent que nous détourner de la voie des pieux prédécesseurs. En plus, le port du sitar est interdit ici en France. Donc si nous sortons avec le sitar, nous serons exposés à une amende. Donc voici notre première question. Compte tenu de notre situation, est-ce qu'il nous est permis de voyager seul sans mahram afin d'aller à la recherche de la science auprès des gens de science et avoir plus de facilité pour pratiquer la religion? Puis voici notre deuxième question. S'il nous est permis de voyager seul sans mahram, pouvez-vous nous conseiller sur la manière de nous y prendre pour ce voyage? Et enfin, voici notre troisième question. Concernant ces rendez-vous à répétition, quel est votre conseil sur le comportement à adopter? Excusez-nous pour la longueur des explications, mais nous avons jugé utile de tout exposer afin que les réponses soient les plus complètes possibles. Qu'Allah vous récompense en bien et fasse du Firdaws al-A'la votre gîte final. Tfadal,
Je vais lire une chose seulement un peu plus haut parce que j'ai besoin de lire cette chose. Une seconde. Je dois régler quelque chose pour pouvoir lire. Voilà. Astinachouf. On nous a. Le résultat de tout cela, c'est que nous avons reçu une ordonnance du juge des enfants du tribunal de la ville dans laquelle nous avons été en France. Cette ordonnance dit que ce juge ordonne une mesure judiciaire d'investigation éducative concernant la plus jeune de nous deux, qui est considérée aux yeux de la loi française comme étant comme irresponsable mineure en danger en France. Non, grand danger, elle est en grand danger. Non, elle est en grand danger, elle risque de commencer à appliquer l'islam pour essayer de rentrer au paradis. Elle est en grand danger. Par contre, si elle jette des bombes ou je ne sais quoi, c'est pas un danger. Non. On nous a informé du déroulement de cette mesure. Nous sommes donc tenus de consulter une psychologue et une éducatrice pendant une durée de 6 mois minimum. Et le premier rendez-vous a été programmé. Au cours de ces multiples rendez-vous, nous devrons nous dévoiler en racontant toute notre vie, celle de nos parents, celle des membres de notre famille, jusqu'à ce que. Et moi, je pose une question. Bon, ça c'est la première question. Donc maintenant, c'est moi aussi qui pose des questions. Pourquoi, musulman, demande-lui de répondre, ou bien si tu connais la réponse, réponds. Pourquoi elle a dit, nous devons nous dévoiler pour aller yani, à cette rencontre? Et je pense que c'est une seule qui va partir, pas les deux. D'après ce que j'ai compris, c'est la plus jeune qui est en grand danger. C'est la plus jeune qui est un grand danger pour la France. Tfadlal.
Non, monsieur, je vais demander au frère Fawzi de récupérer la réponse, car c'est lui qui me l'a envoyé cette question. Tfadar, cher.
Quand elle a posé la question, que elle demande si on doit voyager sans mahram, elle n'a pas dit où elle veut aller voyager. Est-ce que c'est pour aller rencontrer ce juge, ou bien elle parle d'un voyage en général? Ou peut-être qu'elle a dit cela et que je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous me reprenez si je me trompe?
Fawzi, c'est une blague, j'espère. Hein, tu m'as fait lire un livre alors que la sœur n'est pas là. C'est la meilleure, celle-là. Toi, Dacher.
Non, si elle n'est pas là, c'est une rahma. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre une miséricorde. Si elle n'est pas là, c'est masha'Allah. Au contraire, femme, faites des doigts pour qu'elle soit pas là. Et on passe à une autre question. Mais si elle est là, on doit répondre.
Inch'Allah. Je plaisante, Fawzi. Donc, si la sœur qui a posé cette question est présente, on lui demande de contacter le frère Fawzi et de lui apporter donc les réponses, les questions que cher a posées, Inch'Allah. Donc, question suivante. Question d'une sœur qui dit: je suis française convertie. Je voudrais savoir comment procéder pour être sûre d'être enterrée dans un cimetière musulman avec les rituels musulmans, sachant que mes parents seraient capables de me faire les rituels chrétiens. J'ai peur de ne pas être lavé et qu'on ne prie pas sur moi, etc. Tfadachir.
Demande à celle qui a posé cette question si c'est elle qui m'a envoyé un mail et à laquelle je lui ai dit je te réponds très bientôt. Demande-lui si c'est elle.
Fawzi, si tu peux lui demander, Inch'Allah, parce que je la vois pas dans les mains levées. Ah, mon cher, si vous voulez que je vous lise une question, dites-le moi, Inch'Allah.
Et maintenant, est-ce que celle qui a pour celle qui nous a envoyé le livre, est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là pour que je lui réponde? Parce que je vois maintenant que pour le voyage, elle parlait de voyage sans mahram pour aller demander de la science, pas pour le juge. Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là?
Apparemment, elle n'est pas là, cher, parce que Fauzi n'a rien dit. Et c'est bien cette sœur qui vous a envoyé le mail, cher.
D'accord, alors peut-être celle qui a envoyé le livre. Peut-être qu'elle est allée l'imprimer dans une imprimerie. Parce qu'il est tellement long, peut-être qu'elle est allée l'imprimer. Wallahu alam. Al-Mouhem, pour la personne qui vient de. Non, la personne qui a parlé, Afon, qui vient de poser sa question sur. Elle a peur d'être enterrée, etc. Je lui dis j'avais promis de répondre par mail très bientôt. Mais subhanallah l'adhim. Je n'ai pas trouvé le mail. Tellement il y en a, tellement il y en a. Donc quand j'ai commencé à répondre, j'ai cherché parmi les premiers mails auxquels j'avais promis de répondre, j'ai pas trouvé ce mail. Subhanallah l'adhim. Peut-être que, yani, je sais pas ce qui s'est passé. Le mohim, alhamdoulillah, que la personne ait pu lever la main et poser la question. Je dis, la personne doit faire des efforts pour qu'elle soit enterrée dans un pays musulman autant qu'elle puisse. Comment faire cela? Premièrement, ou bien en disant carrément aux parents, voilà, moi quand je meurs, je vous dis dès maintenant, je voudrais mourir, être enterré dans un pays, dans un cimetière musulman, ou bien, en laissant par exemple un testament, ou bien en disant par exemple à un couple musulman, ou bien à des connaissances musulmanes, que si je meurs, si vous pouvez, barakallahu fikoum, faites votre possible pour que je sois enterré dans un cimetière musulman. Maintenant, et ça c'est le plus important, si jamais, la qaddar Allah, que la personne fasse yani ses efforts, que je viens de citer, ensuite meurt, et on va la prendre à l'église, ensuite l'enterrer parmi les chrétiens, avec le crucifix, etc., je lui annonce, bi'idnillahi ta'ala, la bonne nouvelle, que aucun mal ne yani, lui arrivera. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas la châtier à cause d'autres gens. Naam, car c'est pas de sa faute. Elle veut être enterrée dans le cimetière musulman. Mais il n'y a pas comment. Ses parents sont des kofars et personne n'accepte et ils sont pas fous de la mettre dans un cimetière musulman. Mais elle voulait, et Allah ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs, comme dans le hadith de Muslim. Donc, qu'elle soit mise au milieu des chrétiens, ou bien au milieu des bouddhistes, ou bien au milieu des athées, rien ne lui arrivera comme mal. Et Allah Ta'ala ne lui donnera aucun péché, ni encore moins, yani, la châtiera. Donc, elle dit, c'est une ni'ma qu'elle sache cela d'avance. Et peut-être qui te dit, peut-être que, yani, tes parents, bien ta famille, peut-être qu'ils mourront avant toi. Et que par conséquent, tu seras, inshallah ta'ala, enterré dans un cimetière musulman, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur qui dit: Cher, la tante de ma mère m'a offert un service de couvert en métal et plaqué or pour mon futur mariage, Inch'Allah, de peur qu'elle ne meure avant. Ce geste me touche, mais le cadeau ne me plaît pas. De plus, j'ai appris que cela était interdit, le fait de se servir de récipients en or et ou en argent. Allahu a'lam. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, Inch'Allah? Ainsi puis-je le vendre sans lui dire qu'Allah Azzawajal vous récompense en bien, Inch'Allah, wa barakallahu fikum. Tfadda cher.
En fait, il est interdit pour les musulmans de se servir, de récipients en or ou en argent. Il est interdit que ce soit par exemple, la question plus simple, par exemple, voilà, la question plus simple, j'ai un service plaqué or qu'on m'a offert. Que dois-je faire? Ça, elle dit, c'est très yani restreint. Donc ici la personne a dit, la tante de ma mère m'a offert un service de couvert. Alhamdoulilah, elle n'a pas dit comment qu'elle s'appelle, elle n'a pas dit si la tante de sa mère était yani, divorcée ou elle n'est pas. Alhamdoulilah. Donc tu vois, elle dit aussi, yani, elle n'a pas été longue. Pour mon futur mariage, elle n'a pas dit quand. Alhamdoulilah. Inch'Allah, il sera très bientôt que Allah subhanahu wa ta'ala fasse la baraka dans ce mariage. Ce geste me touche, mais le cadeau ne me plaît pas. Non, ce geste me touche. Hein. Depuis, j'ai appris que cela était interdit, etc. Donc, je reviens jeudi. C'est interdit pour le musulman de se servir non, de récipients, etc., qui soit en or, soit en argent. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Comme les cuillères, une tasse, une assiette, et ce qui s'ensuit. Et le hadith a dit que celui qui s'en sert dans ce bas monde, on sera privé dans le paradis. Donc c'est grave. C'est grave. Tayeb. Quand elle dit, est-ce que je peux le vendre? Je peux le vendre sans lui dire. Toute personne qui te donne un cadeau, si tu veux le vendre ou le donner à une autre personne, là, personne n'a le droit de te dire pourquoi ni qu'est-ce que tu en as fait. Il est possible que maintenant, quand une personne te donne un cadeau, il est possible que maintenant, si elle sait par la suite que tu l'as donné, par exemple à une autre personne, il est possible qu'elle se fâche un peu. Qu'elle se dise, commence par là, moi je lui ai donné pour elle et elle l'a donné à une autre. Il est possible qu'elle se fâche. Mais en islam, ce n'est pas interdit de donner ce qu'on nous donne. Et d'offrir ce qu'on nous a offert. Car des gens se basent sur un hadith qui n'est pas authentique, qui dit à peu près El Hadiya la tuhda. Comme ça, ils disent. Ils disent El Hadiya la tuhda. Le cadeau ne s'offre pas. Alors que ce n'est pas vrai. On peut offrir, car à partir du moment où on l'a donné, on nous l'a donné, donc il nous appartient. Donc une chose qui m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Ce que je veux dans le halal. Reste maintenant une chose. Si tu vas le vendre, tu vas le vendre. N'oublie pas que la personne à qui tu vas vendre ce cadeau, elle va s'en servir. Alors tu seras la cause de cette chose. Non, donc c'est toi qui es la cause pour qu'elle s'en serve. C'est pour cela que si tu pouvais, Allahu alam, si tu pouvais dire par exemple à ta tante qui t'a offert le cadeau, que si c'est possible, qu'elle le change. Lui dit voilà ma tante, barakallahu fik, j'oublie pas yani, ton cadeau, comme il est beau, etc. Mais voilà, il y a juste un problème, c'est pas aïe de dire voilà le problème, et tu me ferais vraiment un grand plaisir et à ma tante si tu pouvais me le changer, même si tu me ramènes quelque chose yani, qui n'est pas cher, maalesh, juste un geste. Mais. Voilà pour t'en débarrasser, Inch'Allah. Si jamais elle n'accepte pas ou là, quelle est la solution? Il reste une dernière solution, laquelle? C'est de le garder toujours chez soi sans s'en servir. C'est-à-dire de shbah, comme on dit, comme parure. On le laisse dans l'armoire ou bien dans la salle à manger ou je ne sais où. Juste comme parure, mais on ne s'en sert pas, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Non, quand on fait des doigts, on ne dit pas Inch'Allah. On ne dit pas, Ya Allah, je vous demande, yani je suis malade, je vous demande de me guérir Inch'Allah. Je vais passer le bac, je vous demande de me faire réussir Inch'Allah. Ya Allah, aidez-moi pour avoir telle chose Inch'Allah. Et comme ça, on ne dit pas Inch'Allah. Dans les doigts, le prophète a dit que l'insan Ya'zim, Ya'zim. Il ne dit pas Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mukrih. Non, voilà la sunna, inshallah. Parce que j'ai vu que quand j'assiste par exemple à la mosquée, je vois que surtout le Jumu'ah, quand l'imam commence à faire le das, quand il termine, il commence à dire, à faire des doigts avec Inch'Allah. Ya Allah, il dit, Amin fi kulli balad, Inch'Allah, wa afu an kada, wa shfi al-marda, Inch'Allah, wa rudd al-ghaib, Inch'Allah, wa aqdi al-dayn al-madinin, Inch'Allah, et comme ça. Subhanallah, Tfadlal. On me dit si c'est possible de les faire fondre et revendre le précieux métal. Non, ça m'étonnerait qu'on puisse faire fondre le plaqué or. Wallah, il faut voir avec ceux qui travaillent dans l'or si c'est possible de le faire fondre et de le vendre en or. Maadish, non. De le vendre yani, en métal. Non. Voilà, il faut voir, on a un apprenti chimiste dans le salon, pour voir avec lui, Inch'Allah. Tfadlal. Est-ce que c'est vrai qu'il a pris apprenti chimiste? Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Akhi Mohamed, l'apprenti chimiste, est-ce que tu es là? On t'a enlevé le raid, écrit numéro 1. Alhamdoulilah. Est-ce que tu as une idée sur... Est-ce que tu as une idée sur quelque chose en plaqué or, si ça se fond ou pas? Voilà, pas vraiment, non, car ça... Ah, j'apprends. Car le plaqué or, c'est juste un peu d'or. C'est pas de l'or pur. Si c'était de l'or, bien sûr. Juste un peu comme ça en dessus. C'est pour ça qu'il faut voir, Inch'Allah Ta'ala, avec quelqu'un qui travaille dans l'or. Tfadlal. Mouslim, c'est quoi ta dernière question? Il se fait tard, tfadlal.
Est-ce qu'il y a du son? Alhamdoulilah. Parce que c'était bloqué, cher. Donc la dernière question, il ne faudra pas dire que j'ai fait du favoritisme, mais ce sera la question également d'une sœur qui dit: je voudrais savoir si vous aviez des conseils pour les femmes mariées qui patientent beaucoup alors que leur mari ne font pas beaucoup d'efforts dans la patience envers elles. Les accommodements khayran. Qu'Allah vous préserve. Toi, d'ailleurs.
Oui, j'ai un petit conseil. Quel est ce petit conseil? Le petit conseil, c'est de dire, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, je vais faire partout, une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une seconde. Une seconde. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Je disais, le petit conseil, c'est quoi? C'est que la femme et l'épouse a cet avantage que quand elle patiente avec son mari pour ce qui lui fait de mal, etc., et d'impatience aussi, qu'il a, les mauvais comportements et ceci, cela, tout cela, ça rentre, si elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le fait qu'elle est en train de se remplir de hasanat qu'elle va trouver demain, yom al qiyama. Car vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme, yani, des sentiments qu'il n'a pas donné à l'homme. Et dans les sentiments rentre le fait que Allah ta'ala a donné à la femme de la patience, yani, qu'il n'a pas donné à l'homme. C'est pour ça que vous voyez des femmes, yani, comment qu'elles souffrent, yani, nos mères, nos grands-mères, et comme ça, comment qu'elles ont souffert avec des maris, yani, vraiment violents, des analphabètes, des maris qui frappent, des maris qui boivent, des maris qui ceci, cela. Et subhanallah, elles ont souffert, et elles ont patienté, et ont fait grandir, elles ont fait grandir leurs enfants, et elles sont restées comme ça des années, et subhanallah, seule une femme peut faire cela, un homme ne peut pas. Vous voyez, l'homme, il rentre énervé du travail, il commence à crier ou à insulter, ou je ne sais quoi. Il casse je ne sais quoi, l'âme. Et la femme est là à patienter des mois et des mois et des années. Subhanallah l'adhim, surtout, si elle le fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'elle se dit que, si c'était pour lui, ça fait longtemps que j'aurais claqué la porte. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui a promis à celle qui patiente que vraiment Yani sera ravi d'elle. Non. Je dis toutefois, Yani, dans les limites de la patience. Dans les limites de la patience. Je ne parle pas d'une épouse qui est mashallah et que son mari, par exemple, boit de l'alcool. Son mari fait la fornication. Non. Son mari Yani, fait des choses yani, vraiment non acceptées dans le dîn. Je ne parle pas de cela. Je parle du mari qui est bien dans le dîn, etc. Ou alors moyen dans le dîn. Mais il a un mauvais comportement. Il est des fois violent. Des fois, il dit des choses qui ne sont pas bien. Des fois. Et comme ça. Non, il n'y a pas peut-être un couple dans le monde où c'est parfait, c'est la perfection. La perfection dans le couple, ça se trouve seulement dans le paradis. Ça se trouve seulement quand la personne sera dans le paradis. Si c'est une femme, elle aura un époux parfait. Si c'est un homme, il aura une épouse parfaite, parfaite, qui n'a pas de défaut. Et l'homme n'a pas de défaut. Non. Mais ici, dans ce bas monde, les deux ont des défauts. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Les deux ont des défauts. Mais juste faut-il savoir comment se supporter. Comment se supporter pour que yani, remplir yani, les devoirs qui sont plus importants. Les devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, les devoirs envers la famille, les devoirs envers comment éduquer les enfants, l'éducation musulmane et comme ça. Et maintenant, entre l'homme et la femme, il y a toujours yani, des mots déplacés, il y a toujours des disputes. C'est-à-dire, rentre dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment yani, faire de sorte pour que ça soit pas tout le temps, que ça soit pas tout le temps, non, mais que yani, ce qui règne en général, c'est, inshallah ta'ala, yani, l'islam, non, les préceptes de l'islam. Et de temps en temps, il y a des choses qui rentrent au milieu des disputes, etc. Ça, ce sont des choses normales. Donc, je dis, inshallah ta'ala, pour la personne qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera beaucoup, beaucoup de récompenses dans l'akhirah, le jour où on le rencontrera, bi'idhnillahi ta'ala. J'arrête ici, inshallah ta'ala, je dis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.